bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Zone Parc. Une émission spéciale aujourd'hui puisqu'elle est en direct de la cour du château de Florac, le siège du parc national des Cévennes, où se déroule tout au long de la journée Florilège, une fête dans le cadre du Festival Nature du parc. Une fête dont je vais laisser à Marie-Hélène Gravier la chance de vous la présenter.
Bonjour, donc cette fête Florilège s'inscrit effectivement dans le cadre du Festival Nature. Donc ce Festival Nature, c'est en fait un programme d'animation organisé par le Parc National des Cévennes pour le public et tout au long de l'année, puisqu'il regroupe à peu près 400 à 500 animations tout au long de l'année pour partager avec le public la connaissance des patrimoines du territoire, donc les patrimoines naturels mais aussi culturels, et avoir avec ce public des temps d'échange et les sensibiliser à l'intérêt et à la richesse de ce patrimoine. Donc cette journée Florilège, c'est un peu le temps fort de ce programme d'animation du festival, de ce festival Nature. Donc une journée au mois d'août où on accueille le public qui est en vacances sur Florac ou les alentours pour partager aussi avec eux un certain nombre d'animations. Donc le thème du Festival Nature cette année, c'est métiers et savoir-faire. Et donc cette journée est sous le thème de métiers et savoir-faire. Et c'est pour ça qu'on a un certain nombre d'animations et d'ateliers dans ce cadre-là.
Alors avec nous donc autour de la table, Catherine, l'animatrice de Zone Parc, bien connue des auditeurs et auditrices de Radio Bartas. Marie-Hélène Gravier, qu'on vient d'entendre, vous êtes chef de service accueil et sensibilisation. Et puis il y a aussi avec nous Brigitte Mathieu. Bonjour Brigitte.
Bonjour.
Donc Brigitte, vous êtes technicienne accueil et sensibilisation pour le Mont Lozère.
C'est ça.
On a eu l'occasion de vous entendre l'autre jour sur notre antenne. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot du déroulé donc de cet après-midi maintenant pour qu'on puisse vous rejoindre et passer cet après-midi avec vous?
Alors cet après-midi, tous les artisans présents ce matin, bien entendu, seront toujours là. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ils sont assez nombreux et des stands très très variés sur lesquels vous pourrez même vous essayer, vous initier à tel ou tel métier, ou pas métier, mais au moins une pratique. Il y a un temps fort dans l'après-midi particulier, c'est une conférence donnée par Ameline Lebel-Perron et Yvélie Laurent, apiculteurs au Pont de Montvert. C'est une conférence donc sur l'abeille noire et les ruches éperons. Donc ça se tient à 15h dans la salle Émile Lénaud au château de Florac, c'est la salle du premier étage. Mais pour revenir donc à toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, je pense que certains d'entre eux vont venir présenter leur travail ici à ce micro, mais d'une manière générale, donc vous verrez donc un forgeron, un vannier, vous verrez des éleveurs qui filent eux-mêmes la laine de leurs brebis. Et pour rester sur la brebis, il y a également un atelier de feutre. Où vraiment vous pouvez participer, fabriquer un tissu de feutre dans l'enceinte du château toujours. Et puis bien le rémouleur qui depuis ce matin affûte les outils. Donc si vous venez, n'hésitez pas à apporter, si vous avez un sécateur ou un outil ou un couteau à affûter, c'est le jour J, le grand affûtage, non pas de printemps mais de l'été. Et puis tourneur sur bois,
si vous avez
de colliers, etc.
Un tronc aussi, je crois, non?
Alors, on a le stand du parc avec des ateliers plutôt pour les enfants, c'est aujourd'hui. Donc, il y a Sylvestre, le châtaignier. C'est un vrai châtaignier qui est plein de trésors. Et on fait découvrir ou deviner ce que cache ce châtaignier donc aux enfants. Il y a aussi un jeu pour comprendre la vie d'un arbre et du sol qui le porte, avec toutes les petites bêtes et les plantes qui vivent dans cet arbre. Ce jeu plaît beaucoup aux enfants parce qu'il touche beaucoup le bois et la matière. Et puis, il y a pour peut-être un peu plus grand, un jeu pour reconnaître les essences de bois et peser, comparer leur densité. Donc ça, c'est plus pour les ados ou les parents. Et puis un jeu de mémo, enfin une longue vue aussi, pour que les enfants puissent découvrir des silhouettes cachées dans la cour du château, au niveau des fenêtres ou des arbres. Et puis ça, ce sont donc des ateliers du parc pour les enfants, mais il y a d'autres animations pour les enfants, des pompons par exemple avec Didier Gras, ou bien également un jeu de piste du berger qui se passe à partir du château, mais ensuite c'est plutôt un jeu à faire en famille, accompagner les enfants dans le parc qui se trouve derrière à la recherche d'indices et de petites trouvailles autour de ce métier de berger animé par l'association En Chemin.
D'accord. Si je parlais du tronc, c'est parce que je crois que Ivélie va aussi faire des démonstrations de, oui, de ruche, non?
Oui, de ruche. Ben voilà, c'est encore une manière de travailler le châtaignier qu'on ne connaît pas toujours, puisque j'ai entendu ce matin quelqu'un qui s'étonnait de voir une ruche dans un tronc d'arbre, qui pensait que ces troncs étaient là pour faire des nichoirs pour les oiseaux. Donc c'est le jour où vous trouverez Ivélie à son stand et qui vous donnera toutes les explications, et je pense qu'il va venir d'ailleurs non seulement ici même à ce micro, mais il va parler cet après-midi, donc pendant une heure au cours de sa conférence sur ce thème. Et n'oubliez pas, avant la conférence, il y a également un petit film d'une vingtaine de minutes qui s'appelle L'arbre aux abeilles, qui est un très joli film qui a gagné le grand prix du film de l'insecte il y a quelques temps, et qui est un film réalisé par le Parc National et qui sera diffusé donc en introduction de la conférence. Donc d'accord, c'est aussi une animation de plus.
Très bien, bah un beau programme. Jusqu'à quelle heure ça va durer toutes ces activités?
Jusque 17-18 heures.
17-18 heures, très bien. On va se retrouver un peu plus tard, Brigitte, parce qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont nous parler du travail, oui, de la laine. Et du coup, ça sera aussi l'occasion d'annoncer une fête de la laine. Oui. Et on sera aussi avec François. Bonjour François, qui est à côté de moi. Tu nous parleras, ouais, de la laine avec tous les invités.
Oui, tout à fait, ravi de co-animer cette émission.
Voilà. Merci d'être là en tout cas. Et bien, on va faire une petite pause musicale, ou peut-être Catherine, vous voulez rajouter quelque chose?
Venez nombreux.
Venez nombreux, voilà. Merci à toutes les trois. On fait une petite pause musicale dans le thème, puisque c'est Bourville qui va nous chanter Les Abeilles, avant de recevoir Ivélie Laurent. Vous écoutez donc Radio Barthas sur le 107.0 ou les www.radiobarthas.net. Et nous sommes toujours en direct du Parc National des Cévennes, du Château de Florac. Et maintenant, nous sommes avec Ivélie Laurent. Bonjour.
Oui, bonjour.
Ivélie qui est donc apiculteur et qui va co-animer une conférence sur l'abeille noire des Cévennes avec Ameline Lehébel-Perron. Bonjour Ameline.
Bonjour.
Rapproche-toi un peu le micro. Voilà. Donc, Ameline, tu es en train d'écrire une thèse sur ces fameuses abeilles noires des Cévennes.
C'est ça.
Dans, ouais, quel cadre est-ce que tu t'es lancée dans ce travail?
C'est une thèse qui a commencé il y a 3 ans avec le Parc National des Cévennes et un laboratoire d'écologie, donc le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier. Et voilà, c'était vraiment cette entrée patrimoine. On a un patrimoine sur le territoire caractérisé par ces ruches et troncs et cette abeille noire, et essayer de le connaître un peu. Et du coup, cette thèse, c'est plutôt un regard de l'histoire de l'apiculture à la diversité de l'apiculture aujourd'hui, à travers les apiculteurs et les abeilles.
D'accord, très bien, gros boulot.
Boulot.
Et du coup, en tandem avec un professionnel, vous êtes apiculteur, vous travaillez avec des abeilles noires des Cévennes, du coup?
Alors, apiculteur, au départ amateur et professionnel depuis quelques années, mais surtout passionné, oui, d'abeilles noires, d'apiculture différente, qui puise ses racines dans la tradition. Alors, c'est ce qu'on va voir cet après-midi dans un film que j'ai tourné avant d'être apiculteur. Je fabriquais des films, comme on dit en Allemagne ou en Amérique. J'étais réalisateur de films et j'avais tourné pendant quelques années sur les méfaits des pesticides, plus généralement on pourrait dire de l'agriculture productiviste issue de l'industrialisation de notre monde rural, et fort écœuré par tout ce que j'avais vu, et pas simplement du côté des vilains fabricants de pesticides, j'ai eu la chance de rencontrer un vieil homme de nos montagnes qui est encore vivant à ce jour, et qui tournicote toujours autour des ruches. Alors ça, c'était en 2005, il y a bientôt 10 ans. Et ce film, ça s'appelle « L'arbre aux abeilles », par référence à la ruche tronc. C'est une rencontre avec quelqu'un qui avait 60 ans d'apiculture derrière lui, qui a été président du syndicat d'apiculture de Lozère pendant de nombreuses années, et qui sentait un peu sa fin venir, ou la fin de sa vie venir, a eu envie de transmettre. D'accord. Alors ça tombait bien parce que moi j'étais complètement écœuré par l'apiculture moderne et l'agriculture moderne en général. Et j'ai eu la chance en tant que réalisateur de film de rencontrer cet homme. Donc on a fait un film un peu à l'arrache, sans grand moyen matériel, et je me retrouve aussi du... d'autre côté de la caméra, mais on ne me reconnaîtra pas beaucoup parce qu'entre-temps, bon, les années ont passé. Mais peu importe, c'était une expérience extraordinaire. Premièrement, celle de quitter un côté de la caméra pour passer de l'autre. Et ça m'a complètement guéri de l'envie de réaliser des films, ce que j'ai fait pendant une vingtaine d'années. Et je suis devenu agriculteur, apiculteur, donc professionnel. Et pris en quelque sorte le message de Paul à la lettre, l'idée de faire revivre ces ruches. Alors, pas les faire revivre dans une perspective passéiste, simplement de conserver un patrimoine, mais de trouver ce qu'elles ont d'actuel. Et c'est là que nos chemins convergent avec celui d'Ameline, qui en tant que jeune chercheuse se penche sur ce type d'apiculture.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'avenir de l'apiculture, sur notre région, et quelle particularité a l'abeille noire des Cévennes ?
Alors, est-ce qu'on y répond maintenant ou est-ce qu'on y répond cet après-midi ? Quelle particularité a l'abeille noire des Cévennes ? On essaiera de vous montrer un petit peu comment l'abeille noire est apparue. Donc, l'aire de répartition de l'abeille noire, c'est quand même grand. C'est toute la France, le nord de l'Europe. Et dans les Cévennes, on parlait du mauvais temps tout à l'heure, on a une abeille qui a vraiment été habituée à ce mauvais temps, à ce climat un peu montagnard, qui s'est bien adapté à la végétation d'ici. Donc ça, c'est une des caractéristiques de l'abeille noire des Cévennes. Mais moi, ce que j'ai voulu voir, du coup, c'était cette abeille noire. Maintenant qu'on est dans un contexte où l'apiculture est moderne, où les apiculteurs transhument, les apiculteurs achètent des abeilles d'un peu partout, est-ce que cette abeille noire des Cévennes existe toujours ? Donc on a fait des prélèvements chez pas mal d'apiculteurs pour essayer de voir si l'abeille est toujours présente. Et en fait, on est dans un contexte où on n'a plus beaucoup d'abeilles issues de ces abeilles qui étaient là à l'époque des rugetrons, à l'époque où les hommes faisaient vraiment que de l'apiculture sédentaire. Et les abeilles ont beaucoup changé sur le territoire.
Elles se portent bien quand même, celles qu'il y a ? Parce que c'est vrai que c'est assez inquiétant tout ce qu'on peut entendre sur le sort des abeilles aujourd'hui.
Oui, alors ce qui est intéressant en tant qu'apiculteur, c'est de constater que lorsqu'on a la chance d'avoir des abeilles noires dans un rucher et qu'on peut observer en parallèle des abeilles différentes qui sont des abeilles hybrides, qui sont en fait des abeilles issues d'une sélection opérée par l'homme intense, et ce depuis plusieurs générations d'abeilles. Depuis bientôt plusieurs siècles. C'est dévastateur. Les amateurs de chevaux comprendront tout de suite ce que je veux dire quand on compare un cheval de Camargue, qui est certes rustique et rudimentaire, mais qui a une capacité de résistance extraordinaire et qui est quasiment autonome, avec un pur sang arabe, ou même encore mieux, un cheval de course. Il y a une fragilité extrême qui est induite par la sélection de l'homme. L'homme biaise les cartes de l'évolution, il biaise l'évolution génétique spontanée des espèces et il va sélectionner selon un critère, et bien sûr dans son espèce d'ambition d'apprenti sorcier, il va penser bien faire. C'est ce que fit un moine dans l'abbaye de Buckfast il y a quelques dizaines d'années, qui avait le rêve de fabriquer une super abeille qui résoudrait tous les problèmes dans le monde, une abeille douce, très productive, qui s'adapterait à tous les climats, etc., et qui enrichirait la nature humaine. Et il nous a fabriqué quelque chose d'extrêmement sophistiqué, très difficile à manier, qui demande beaucoup de connaissances, qui est extrêmement fragile, qui demande énormément d'apports de nourriture artificielle, c'est-à-dire énormément de cheminement qui dépense des énergies fossiles pour aller alimenter ces abeilles en sucre, parce qu'elles sont infoutues de se débrouiller elles-mêmes. À l'inverse, vous avez la deux chevaux, qui est l'abeille noire, qui est issu de la sélection naturelle ou d'une apiculture traditionnelle qui était très peu interventionniste, qui mettait très peu de pression sur les colonies d'abeilles et qui finalement laissait les abeilles à leurs propres amours. Les reines d'abeilles trouvaient les mâles elles-mêmes dans les airs au gré des circonstances et des rencontres. Et à l'inverse, vous avez toute une apiculture très moderne qui s'est développée avec l'insémination artificielle des reines. Alors là, c'est peut-être pas la peine d'être royaliste pour s'offusquer de la procédure qui consiste à intervenir la vie des espèces, toujours selon le credo que la nature humaine est beaucoup plus maligne que les animaux, et particulièrement ces pauvres andouilles que sont les insectes, qui ne sont pas foutus de savoir ce qui est bon pour eux. Et bon, voilà, le problème, c'est qu'on est rendu à un niveau de catastrophe au niveau mondial en matière d'abeilles, et que cette pratique de sélection a été d'ailleurs dénoncée il y a plus de 50 ans de ça, par des penseurs, des philosophes de l'agriculture, a eu des conséquences terribles jusque dans nos montagnes qui, il y a peu encore, étaient véritablement dans l'ensemble de l'Europe, un des coins d'Europe où il y avait le plus d'abeilles noires.
Voilà. Est-ce que pour vous, c'est le facteur le plus important qui explique aujourd'hui les difficultés des apiculteurs ? Bon, il y a plusieurs facteurs qui jouent, qui expliquent notamment le manque de production pour cette année. Il y a sans doute donc ce que vous avez dit par rapport à la génétique, l'aspect pesticide aussi qu'on entend beaucoup, le facteur climatique. Cette année, bon, on n'a pas un temps idéal. Pour vous, si les apiculteurs, par exemple, n'utilisaient que les abeilles noires, est-ce qu'on aurait beaucoup moins de soucis aujourd'hui ?
Alors, le problème, s'il y a un problème, et si on peut définir un problème, c'est justement de vouloir mettre le doigt sur quelque chose et dire c'est là l'origine de la situation actuelle. C'est bien évident que tout est intimement lié. Les pesticides sont intimement liés avec l'importation de matériaux biologiques, c'est-à-dire de variétés d'abeilles issues d'horizons très lointains, voire de l'hémisphère sud. Tout cela afin de plus de productivité. Et c'est évident pour pas mal de citoyens aujourd'hui que l'évolution étrange du climat n'est peut-être pas le seul produit du mouvement de la nature et des astres, mais peut-être aussi une conséquence de la dégradation des milieux. Tout est lié. La transhumance est liée à l'insémination artificielle. C'est la volonté de vouloir toujours tirer plus vite, plus, sans prendre suffisamment en compte la fragilité de ce qui est vivant, et qui est d'utiliser en fait l'abeille comme une machine à produire du miel, comme on peut utiliser les arbres comme des machines à produire des fruits, les vaches des machines à produire du lait, etc., pour produire précisément des produits qui ne sont plus des aliments.
D'accord. Combien il y a d'apiculteurs aujourd'hui en Cévennes qui utilisent les abeilles noires ? Est-ce qu'on peut le dire précisément ou pas ?
Précisément, non. Après, c'est difficile quand on parle d'abeilles noires, on a différents critères de détermination. On peut avoir le critère morphométrique. En gros, là, on va surtout regarder l'abeille, l'aile, les différentes caractéristiques physiques. Quand on a échantillonné le territoire, on a à peu près 60% de l'abeille qui a les caractéristiques encore de l'abeille noire. Chez tous les apiculteurs du territoire confondu, que ce soit les pros, les amateurs, etc. Beaucoup d'apiculteurs ici vont pas forcément contrôler leur cheptel en termes de génétique, donc ils vont pas forcément travailler avec de l'abeille noire, mais ils vont souvent être contents de travailler avec des abeilles locales. Donc ouais, je crois qu'on peut parler de 60% en termes de morphométrie.
D'accord.
Par contre, si on regarde la génétique, et si on essaye de voir si les abeilles qui sont chez les apiculteurs aujourd'hui et les apicultrices sont issues des lignées cévenoles, là on s'aperçoit que non, qu'elles ont quasi toutes disparu, et donc on peut dire qu'il n'y a même pas 1% des apiculteurs du territoire qui travaillent avec des abeilles qui sont issues d'arrière-arrière-arrière-grand-mère d'abeilles du territoire.
D'accord. Donc il y a un gros travail après à faire en termes de peut-être de sélection, de reproduction. Comment ça se passe tout ça ? Quelles sont un petit peu les perspectives envisagées au niveau de peut-être de la réintroduction de l'abeille noire en Cévennes ?
Ce qui est difficile sur le territoire, alors Yves s'occupe d'un conservatoire d'abeilles. Ce qui est difficile ici pour les apiculteurs, autant pour les professionnels que pour les amateurs, c'est qu'il n'y a pas de production d'abeilles localement. On ne peut pas, si on est apiculteur amateur, on a envie de commencer avec trois essaims d'abeilles noires. C'est très difficile d'en trouver parce que D'accord. beaucoup de gens en cherchent.
Et on peut en trouver ailleurs qu'ici ?
Et on peut en trouver ailleurs. La demande en France est beaucoup plus élevée que l'offre. Il n'y a pas une grosse production d'abeilles noires. Il y en a sur l'île d'Ouessant, par exemple, en Bretagne, et je sais que c'est pas du tout le même climat. Donc c'est peut-être l'enjeu sur le territoire, c'est essayer de développer cette production d'abeilles noires d'ici, et puis de les diffuser facilement.
Oui, il y a vraiment intérêt, d'autant qu'il y a cette demande qui existe.
Oui, la demande est assez forte, et de plus en plus peut-être.
D'accord.
La conférence, ça sera à 15h et ça se passe dans la salle Émile Lénaud, c'est dans le château, avec la projection donc, de ce film pour ouvrir la conférence. Et puis aussi un stand, Yveli, toute l'après-midi avec des ruchetrons.
Toute la matinée, toute l'après-midi, là, les gens peuvent venir voir des ruchetrons, parler de leur fonctionnement, de l'intérêt que ça peut avoir aujourd'hui, et puis tester un peu la fabrication.
Mais merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Bonne conférence, bon après-midi. On va faire une petite pause musicale avant de parler du travail de la laine. Une pause musicale avec un groupe italien. Vous écoutez toujours Radio Bartas sur le 107.0. C'est toujours un direct de la fête Florilège, le Florilège du Festival Nature, la fête du Parc National des Cévennes. Et maintenant, nous allons parler de la laine avec nos invités. Donc, François, je te laisse nous présenter les invités.
Oui, donc, alors on a pas mal d'invités sur la question. Donc, tout d'abord, Brigitte Mathieu, nous parlera de l'organisation de la fête de la laine à Genolac le 31 août, hein, si je ne me trompe pas. Ensuite, on a Christina von Wisocki, donc qui est cardeuse et fileuse. On a également autour de la table Florian Joyez, qui est fileur, je l'ai peut-être mal prononcé.
Florent
Joyez, pardon. Et enfin, Didier Gras, qui est éleveur et représente les bergers transhumants. Voilà, si vous... Donc peut-être pour commencer, on peut parler de la fête de la laine qui sera organisée à Genolac. Donc rappeler peut-être un petit peu les objectifs de cette rencontre.
Alors effectivement, la journée de la laine se tiendra le 31 août à Genolac et c'est la troisième édition. Et l'idée de cette journée était venue... suite à ce constat que la laine ici en Cévennes était très très peu valorisée et on avait envie de montrer qu'il y a quand même encore des choses qui se font avec cette fibre et des gens qui filent la laine, des gens qui font du feutre, ça peut être des activités de tissage, de cardage, etc. Il y a beaucoup de choses qui se font ici et là en Cévennes et on a rassemblé tout ce petit monde et on s'est aperçu que finalement il y a plein de gens qui travaillent encore la laine, y compris certains qui travaillent, ils vous le diront tout à l'heure, la laine de leur propre brebis. Je ne sais pas, j'annonce peut-être un peu le programme ou c'est prématuré ? Non ? Eh bien, je vous annonce le programme. Donc, dès le matin, il y aura une petite randonnée sur la Draille, accompagnée par André Joffard et sa femme Raymonde Joffard, qui vous racontera l'histoire de la transhumance. Et je vous conseille de vous inscrire pour cette randonnée à l'Office du tourisme. Elle sera très intéressante, pas très longue. C'est une balade plus qu'une randonnée. Et il y aura une surprise au milieu du chemin, une très très belle surprise. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, les places sont limitées. Et puis à partir de 10h sur la place du Colombier et dans la maison du parc ainsi que dans la cour de l'office de tourisme, eh bien, des animations à la fois des artisans vendeurs de leurs produits à base de laine, mais également beaucoup d'artisans qui vont faire uniquement de la démonstration et des ateliers, un peu comme ici à Florilège, mais uniquement autour de la laine. Donc ça peut être la dentelle de laine comme la laine dans l'habitat, ça peut être vraiment toutes les facettes possibles de l'usage de la laine, avec par contre un petit peu de vente éventuellement, mais toutes les démonstrations, tous les ateliers sont gratuits, il y en a pour tout le monde. Il y a également des chiens de troupeau, une belle démonstration de chiens de troupeau, il y aura un petit troupeau de brebis avec un éleveur qui parlera de son travail, et puis à 15h30 une conférence débat, justement, est-ce qu'une filière laine locale serait possible aujourd'hui en Cévennes? Alors pour répondre à cette interrogation, nous aurons Stéphane Boileau qui est président de l'atelier des laines d'Europe et Julien Bucher qui travaille donc et est chargé de mission agri-environnement au parc national et qui est en même temps trésorier de cette association Laine d'Europe. Donc ils ont des réponses à des pistes en tout cas de travail à nous montrer. Et puis pour le débat, bien sûr, il y aura des éleveurs dans la salle qui pourront répondre aux questions du public. Alors tout ça, bien sûr, est gratuit. Donc venez nombreux, comme aujourd'hui, à Florilège. Et puis, pour ceux qui seront encore là, c'est valable quand on invite tout le monde. Ce ne sont pas que les vacanciers. Bien sûr, les habitants sont absolument les bienvenus.
Donc tout un tas d'initiatives à droite, à gauche, oui. À rassembler, à faire connaître. Alors c'est vrai que la laine, on a l'impression que c'est un produit qui est un petit peu issu du passé, archaïque, entre guillemets. Et finalement, il y a beaucoup de personnes qui choisissent de la travailler. Oui. On va demander à nos invités de nous expliquer peut-être un petit peu mieux ce qu'ils font et pourquoi ils ont choisi aussi d'essayer de valoriser cette matière. On va commencer peut-être par Christina von Wysocki. Donc vous êtes cardeuse et fileuse. Expliquez-nous un petit peu pourquoi vous avez choisi cette voie-là.
Alors, je ne suis pas uniquement cardeuse et fileuse, en fait. Je suis d'abord éleveuse aussi. ça m'a toujours démangé d'utiliser cette laine. Donc, forcément, il faut la laver, la carder. J'ai commencé par la filer, effectivement, la tricoter, la tisser. Et récemment, je me suis mis aussi dans le feutre. Voilà. Et dans les teintures végétales. Donc, j'essaye un peu de développer... tout ce qu'on peut faire.
Et d'ailleurs, vous proposez une démonstration de fabrication de feutres à l'entrée du parc, dans une petite maison.
Tout à fait, la petite maison, avant de monter les escaliers pour venir dans la cour, vous pouvez venir voir et même participer à un atelier fabriquer du feutre.
Et vous serez à la journée de la laine à Genolac.
Et je serai aussi à Genolac, oui.
D'accord.
Alors comment ça se passe au niveau de la production, de la commercialisation de vos produits on a tendance à dire que la laine c'est un petit peu une filière du passé, comment vous en sortez?
Heureusement j'en vis pas, donc c'est vraiment une passion que j'essaie de développer, mais malheureusement ça fait quand même presque 30 ans que j'essaie de transformer la laine. Vu si je devais compter le temps que je passe, déclarer des charges sociales, tout ça, la TVA, je fais plus rien. Donc pour le moment, c'est une passion que j'essaye de développer en trouvant aussi un peu des machines qui m'aident. Donc j'ai commencé bien sûr à la main avec le fuseau d'abord, bien sûr, le rouet. J'ai trouvé un rouet électrique qui évite un peu la fatigue, parce que quand on file plusieurs heures par jour, et qui permet de gagner en rapidité. J'ai des petites machines aussi, donc à carder. J'en ai même une petite électrique aussi maintenant. J'ai investi dans une machine aussi allemande qui aide pour faire le feutre. Mais bon, tout ça, c'est pas facile, quoi. Enfin, si vraiment on veut être rentable, il faut forcément passer par des machines, peut-être pas encore industrielles, mais faut passer par des machines.
Donc c'est une passion, effectivement. Mais qu'est-ce qui pourrait manquer pour que cette activité puisse quand même être un petit peu plus rentable ? Est-ce qu'il faut chercher d'autres producteurs, organiser un réseau Alors, quels sont les besoins ?
Effectivement, donc il y a une petite idée qui est en train de germer. C'est de créer un atelier collectif sur place autour de Florac, j'espère. Un atelier collectif donc, qui va regrouper des artisans donc, qui transforment et des éleveurs qui sont intéressés par valoriser leur laine. Voilà. Donc ça va nécessiter qu'on se regroupe, qu'on fasse connaître le projet. Donc c'est une bonne occasion là. Et donc on avance donc, en fonction des besoins là, de chacun, ce qu'on peut mettre en place.
Bien, merci Christina pour ce témoignage. On va passer à un autre témoignage maintenant. Donc Florian Joyez.
Florent, oui, je vais dire.
Donc vous êtes fileur, expliquez-nous un petit peu votre métier.
Donc à la base je suis éleveur quand même, je suis plus éleveur que fileur. Donc c'est parti du principe que comme ancien tondeur professionnel, jeter ma laine, ça me fendait le cœur à chaque fois, quoi. La foutre à la déchetterie, c'était une catastrophe pour moi, en tant qu'ancien tondeur professionnel, issu de la bergerie nationale de Rambouillet, où j'ai eu la chance d'être formé par le dernier expert lainier, monsieur Détouche, qui était le dernier en France, donc d'autant plus, quoi, je veux dire, c'était vraiment une catastrophe à chaque coup. Donc, comme j'avais appris à filer à la bergerie nationale de Rambouillet, je me suis dit avec ma compagne, eh ben pourquoi pas, comme j'ai une compagne qui est très manuelle, donc on a commencé comme ça. On a acheté un rouet, elle a été faire un stage à Toulouse chez une vieille dame qui lui a appris à filer. Et puis on a commencé à se perfectionner, à faire comme ma collègue, à essayer de trouver des systèmes pour aller plus vite, pour gagner du temps. Parce que s'il faut en vivre, on n'en vit pas. Nous, c'est un plus. C'est-à-dire que c'est un petit plus qui permet d'acheter le grain des brebis, qui permet de se faire une petite folie, voilà. Un grand plaisir, parce que nous, on n'a pas la télé, donc tous les soirs, eh ben, on file. De faire diffuser autour de nous, parce qu'on fait des stages, donc il y a des gens qui viennent, souvent des gens qui sont accros après, quoi. Donc ça fait plaisir, si on fait un stage avec trois personnes, qu'on arrive à trouver une personne qui nous dit « Ah, j'ai acheté un rouet, c'est super !» et tout, ça, c'est un grand bonheur. Mais c'est clair que de toute façon, on n'en vit pas. La filière laine en France est complètement ruinée, de part en part, de l'éleveur jusqu'à l'acheteur. Comme elle est ruinée en Australie, partout dans le monde à peu près, il n'y a que à peu près l'Amérique du Sud qui tire à peu près son épingle du jeu, quoi. Alors, il faut savoir que quand même, il y a un espoir, puisque je viens d'apprendre que les Chinois avaient racheté des millions d'hectares en Australie dans le but de produire de la laine, et que c'est en train de les mettre au niveau mondial. Ils sont les leaders mondiaux à l'heure actuelle pour la laine. Donc, si ces gens-là, qui sont des commerçants, ont mis leur argent là-dedans, c'est qu'à la base, il y a quand même un retour qui va peut-être arriver. Donc ça va peut-être être la fin de la bouteille plastique et du polaire. Et on va revenir sur des laines. Donc moi, c'est ce que j'essaye à mon stand de faire voir. La laine a une mauvaise connotation, ça gratte. Voilà, on nous dit ça gratte la laine. Non, c'est faux, il y a des laines qui ne grattent pas du tout. Moi, je produis des laines typées Mérinos, typées Île-de-France, Berrichon-du-Cher. Et celles-là, elles ne grattent pas du tout. Et dans nos races rustiques, on a aussi des laines qui ne grattent pas du tout. C'est pas vrai, la laine, ça ne gratte pas.
Alors ça, c'est très intéressant justement, parce que sur votre stand, il y a tout un tas de laines différentes. différentes qu'on peut toucher, voilà. On voit les différentes textures, les différentes couleurs évidemment, et c'est vrai qu'à découvrir comme ça, c'est chouette, ça, on se rend mieux compte.
Voilà. On s'aperçoit qu'en fin de compte, la laine, c'est une fibre et qu'il y a différentes épaisseurs de fibres, et que en fonction de l'épaisseur de la fibre, ben, ça gratte ou ça gratte pas, quoi, voilà. Savoir que plus on va vers le sud, moins les laines sont fines, parce que la brebis a moins besoin de se défendre du froid. Donc les laines du nord, type Etexel, Île-de-France, anglaise, sont très très fines, du fait de la sélection aussi, puisque c'est toujours eux qui ont détenu le monopole de la laine jusqu'à maintenant, quoi, voilà.
Donc en gros, vous êtes en train de nous dire qu'avec n'importe quel type de laine, on peut faire quelque chose.
Oui. Toutes les laines, ils ont leur qualité. Même une laine très rustique, d'une brebis très rustique, on peut. Nous, on file du mouton de Bretagne, de l'Ouessant. Donc, quand vous regardez la laine, elle est pas terrible, et à la fin, on peut arriver à faire quelque chose avec, quoi. Ouais.
Voilà. Vous êtes nombreux à faire cette même activité ?
Je pense pas. Non. Je sais pas, ma collègue, si elle a plus de chiffres que moi, mais non, je pense pas qu'on soit très très nombreux. Mmh. On entend me parler, c'est quelque chose. D'abord, quand on dit qu'on file la laine, on prend un peu pour des huluberlus. Mmh.
Donc, autant il y a un problème d'ordre économique au départ. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est aussi un problème d'ordre culturel, c'est-à-dire qu'on a oublié les valeurs de la laine.
Tout à fait, on a oublié parce que tous les gens qui viennent chez nous disent « Ah, mais moi, ma grand-mère, elle avait un rouet !» Et donc, c'est pas si vieux que ça, c'est des gens qui ont une quarantaine, cinquantaine d'années. Ma grand-mère avait un rouet, je me rappelle, quand j'étais enfant, je la voyais bien dans ma tête filer la laine et nous faire des pulls avec. Donc, c'est pas si vieux que ça. Mais ça a été complètement, complètement perdu, quoi.
Bien, ben on peut espérer en tout cas qu'avec ce que vous nous avez dit, qu'on puisse petit à petit...
On œuvre pour ça, hein. Moi on fait des stages, on a fait des stages vraiment pas chers pour essayer de diffuser un peu les gens, on invite des gens, comme on a invité Brigitte qui est notre voisine qui est venue faire un stage pour essayer, bon elle a trouvé ça super, en pas longtemps, en 3 heures de temps. Elle a trouvé ça génial, quoi. C'est quelque chose de très délassant. Il y a des gens qui nous ont dit que ça ressemblait un peu à du yoga quand on faisait ça, que c'était très très délassant. Enfin, nous on est très contents de faire ça, même si on gagne pas beaucoup d'argent.
Et alors où c'est qu'on vous trouve si
Alors nous on est sur la commune de Permal, on est dans le Gard, on est au bord du Luèche là. Donc on a repris une petite exploitation qui était abandonnée depuis 1914 en 2006. Le Far West, reprise totale de l'exploitation. On arrivait avec nos brebis qui étaient pas d'ici. Donc on s'est fait un peu regarder bizarrement, qu'elles étaient trop grosses, qu'elles allaient se perdre dans les failles, qu'elles allaient se casser les pattes. Jusqu'à présent, bah, ça va faire presque 10 ans, j'ai pas perdu une brebis, il n'y a pas une qui s'est cassée les pattes. Elles sont très très vite habituées, elles courent plus vite que moi dans la montagne, je peux vous le dire. Et on arrive à produire des laines de qualité, quoi. Je veux dire, voilà.
Que vous commercialisez sur les marchés, quoi.
Alors on commercialise sur des petits marchés, on a beaucoup de gens qui viennent faire des stages qui nous en achètent, et puis du bouche à oreille, quoi, voilà. Parce que de toute façon, c'est des quantités très faibles, hein. Mmh. Les gens qui veulent, il y a des gens qui nous ont commandé 3-4 kilos de laine, il faut qu'ils nous le commandent d'avance pour l'avoir, quoi, je veux dire.
Bien, merci Florent pour votre témoignage. Donc on va passer au dernier témoignage, donc Didier Gras. Vous êtes éleveur et vous représentez les bergers transhumants. Alors qu'est-ce qu'un berger transhumant ?
Un berger transhumant, c'est une personne qui ne peut pas rester sur son parcours l'été et qui fait monter ses brebis à l'estive, à la montagne. Voilà.
D'accord. Il y a beaucoup de bergers transhumants sur notre territoire ?
Oui, parce que la plupart des troupeaux sont concentrés sur le mont Lozère et sur le mont Tégoual, dans la vallée de la Dourbie, les gros troupeaux sont sur la coopérative d'Estive entre le lac d'Épise et les Lopis. Mmh. Et puis le mont Tégoual, il y a plein d'endroits où il y a des troupeaux. Mmh. Enfin, les gens ne le savent pas parce que la plupart du temps, ils ne les voient pas ou ils ont du mal à les voir. Mais bon, et en plus, le plus important, c'est que c'est des troupeaux qui se déplacent à pied. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est que les gens puissent encore aller à la montagne à pied.
Donc c'est les brebis qui viennent pas seulement de Lozère, mais du sud, de l'Hérault, du Gard.
Oui, elles montent du Gard, de l'Hérault. Il y en a quelques-unes qui viennent de Lozère. Mmh. Mais pour la plupart, c'est entre la plupart des troupeaux, c'est Gard-Hérault.
D'accord. Et les transhumances à pied, est-ce qu'il y en a beaucoup encore qui se font ?
Il y a beaucoup de transhumance, on est bien content pour ça. En plus, nous, on est dans la tradition. Alors bon, c'est vrai que quelquefois, on fait hurler certains éleveurs parce qu'on est encore dans les tontes traditionnelles avec la décoration, ce que je fais là sur le stand. Parce que bon, se faire connaître, c'est bien, mais bon, par rapport aux touristes, c'est toujours difficile d'expliquer quelque chose qu'on vit au quotidien. Alors, moi, j'ai créé ce stand pour pouvoir essayer de faire la démonstration, parce que la plupart des éleveurs, ils n'aiment pas trop ça. Il y en a qui préfèrent rester à leur brebis, alors ça fait que je me suis sacrifié. Et ça fait des années que je fais ça.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du métier de berger aussi ?
Ben, le métier de berger, en fin de compte, sur ces massifs, que ce soit des troupeaux qui viennent d'Écosse ou des garrigues, je me rappelle qu'on animait la fête des